Bonjour à toutes et à tous, Mémoire Aveyronnaise, 27e numéro de cette émission présentée par Vincent Besombe. Salut Vincent.
Salut.
On rappelle Vincent, président du comité Rhodes du Souvenir Français.
Eh oui.
Tout va bien ?
Oui, toujours.
Alors je me souviens, je crois, il y a 15 jours, tu nous avais annoncé pour cette émission aujourd'hui que tu allais nous parler de... Il y avait des sergents et
oui.
On allait aller à La Rochelle.
Voilà, sous le soleil de La Rochelle.
Volontiers, ça.
Le soleil de Charente inférieure.
Ça ne nous fera pas de mal.
C'est ça. En fait, oui, mais pour commencer, on va aller plutôt à la grisaille, malheureusement.
Ah.
L'histoire, avant de se terminer tragiquement à La Rochelle,
ouais.
Commence à Paris. Alors, à Paris, en 1820, alors, petit rappel historique,
oui.
L'empereur, en 1820, est exilé au large de l'Afrique sur l'île britannique de Sainte-Hélène depuis 1814. 1815, pardon. Louis XVIII, frère de Louis XVI, est assis sur le trône de France pour sa deuxième restauration depuis 5 ans. À ce moment-là, il ne fait pas bon du tout être bonapartiste ou républicain en France.
Ah,
les Bourbons qui reviennent au pouvoir font un petit peu la chasse à tout ça.
Ouais, aux sorcières.
Oui, parce qu'en plus, ouais. Ils sont revenus pour une première restauration. Napoléon était bien tranquille sur sa petite île d'Elbe. Il est revenu, crac, boum.
Les 100 jours.
Les 100 jours. Exil à nouveau de Louis XVIII.
Waterloo.
Et Louis XVIII peut enfin revenir. Donc, deuxième restauration, qu'on appelle en fait au niveau historique, juste la restauration. Voilà. Alors donc, c'est très compliqué pour les républicains en France, mais pourtant, de nombreuses sociétés secrètes, c'est quand on interdit et que les sociétés secrètes se forment et arrivent, libérales et républicaines, pour pas dire carrément des fois bonapartistes ou révolutionnaires, voient le jour.
Mais alors ces sociétés secrètes, excuse-moi Vincent, je te coupe déjà.
Ah bon, on peut pas en parler, elles sont secrètes.
Ouais, non mais c'est quoi, c'est les sociétés secrètes à cette époque-là, je pense franc-maçon, il y en avait d'autres.
Oui, plein d'autres.
Ah bon, d'accord.
Oui, plein. Alors là, c'est plutôt politique. Hein. C'est plutôt des sociétés qui vont essayer de saper justement la royauté, les Bourbons, pour les destituer et remettre au pouvoir la République,
d'accord.
voire même la Révolution ou l'Empire. Hein.
D'accord. Bon, enfin, ceci dit, les francs-maçons étaient un petit peu dans ce camp-là. Hein.
Aussi.
Aussi. Très bien.
Aussi.
Ouais.
On est d'accord. Elles sont constituées donc d'anciens bonapartistes, d'anciens révolutionnaires, mais aussi, bon, mais c'est toujours contestataire, d'étudiants.
Ah oui, ah bah oui.
Bah toujours, hein, même ça change pas.
Non.
Et aussi de militaires, nostalgiques, bien entendu, de la grandeur de l'Empire. Dans la nuit du 13 au 14 février 1820.
Il ne devait pas faire chaud.
Non. Louis Louvel, un ouvrier bonapartiste, assassine le duc de Berry. C'est très célèbre en histoire
de
France, l'assassinat du duc de Berry.
Oui.
Neveu du roi Louis XVIII et héritier potentiel du trône de France.
Ah, oula.
Je rappelle, Louis XVIII n'a pas d'enfant. Il a un frère, qui est aussi donc le frère de
Louis XVI.
Le frère de Louis XVI, le comte d'Artois, qui régnera après la mort de Louis XVIII sous le nom de Charles X.
Ouais.
Lui, donc, a ce fils. Qui va donc mourir sous les coups de poignard de Louvel. En août de la même année, une conspiration appelée le complot du bazar français est déjouée. Certains de ses responsables, pour éviter d'être capturés, fuient vers la Sicile.
Parce qu'en Sicile, il y avait un roi de Sicile, famille de Napoléon, on était encore dans
alors,
le
c'est premier royaume, c'est le royaume des deux Siciles. Non,
d'accord.
Non, il y avait plus du tout de,
ah,
de,
ouais.
de c'était plus du tout, c'était revenu aux Siciliens.
Ah, d'accord.
C'était, oui, effectivement, il y avait le roi de Naples, qui était Joachim Murat, le beau-frère de Napoléon, qui lui a été exécuté d'ailleurs là-bas. Ouais, ça c'est mal fini pour lui.
Aussi. D'accord.
Voilà, aussi. Donc, là-bas, ils y rencontrent une société secrète anarchiste qui porte le nom de Carbonari.
Ah oui, c'est connu. Enfin, c'est connu. C'est
oui,
relativement
dans l'histoire,
connu.
Dans l'histoire, oui. Histoire européenne et aussi histoire française. C'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, ils sont issus de la corporation, en fait, des charbonniers.
D'où Carbonari.
Son origine est basée exactement sur le même, tu vois, t'en parlais, sur le même mode de fonctionnement que la franc-maçonnerie. Il reste un petit peu en Italie, une petite année. Il rentre en France en 1821 et crée une carbonari à la française, appelée également donc soit carbonari, soit à la française charbonnerie.
Ah,
voilà.
Ça veut dire carbonard.
Les carbonards, c'est
nous, c'est comme ça qu'on les connaît.
C'est bien aussi, moi j'aime bien, mais c'est autre chose. À la limite, je préfère les carbonards. Cette conspiration a pour objectif, donc on l'a vu, de chasser la royauté et d'instaurer la République et restaurer également la souveraineté du peuple. Mais ces revendications restent marginales en laissant indifférent presque la presque totalité des Français. Ouais. Faut pas l'oublier, depuis la chute de Napoléon et de l'Empire, le peuple aspire enfin à vivre en
tranquille.
Ouais, ouais, parce que bon, la grandeur de Napoléon, ça va, mais
ça tue les femmes, les, enfin, les enfants, les
milliers, voire les millions de personnes que ça a fait dans les guerres napoléoniennes, c'est voilà, c'est un petit peu de tranquillité, ça fait pas de mal. En plus, bon, pour la plupart des Français, le jeu politique, ils voient ça vraiment de très très loin, ouais. et laissent ça à une certaine catégorie de la bourgeoisie.
Ouais, ils ont d'autres préoccupations, manger. Déjà,
c'est ça, tout à fait. Puis reconstruire, comme on l'a dit, cette France qui a été, cette Europe qui ont été vraiment exsangues de toutes ces guerres. L'un des chefs de cette carbonarie française n'est autre que le marquis de Lafayette.
Le même, enfin celui qu'on connaît pour les États-Unis.
Le même,
d'accord.
Le même. Grand franc-maçon,
ouais.
Qui a joué un jeu, je le rappelle, pendant la Révolution française.
Entre deux eaux.
On va dire ça comme ça.
Tourner avec le vent un peu.
Je soutiens le roi Louis XVI. Ouais. Je le laisse tomber.
Ouais, ouais.
Voilà, bon, il va aussi, pendant la révolution de 1830, malgré son vieil âge avancé, il va avoir une action, voilà, enfin, il prône vraiment la République, et puis bon, tout ce qui touche aussi à la franc-maçonnerie. Donc c'est un grand républicain devant l'éternel. Le 45e régiment d'infanterie de ligne, on va parler de lui, compte de nombreux sympathisants carbonaristes dans ses rangs. Le régiment est en garnison à Paris, en plein cœur du quartier latin,
ouais.
Donc toujours en contact avec ces fameux étudiants. Donc c'est un milieu très subversif, les étudiants vont essayer de retourner ces militaires, ils vont en partie y arriver. Ce régiment est dirigé par un royaliste, et les sous-officiers nostalgiques de la grande armée napoléonienne lui sont, on peut l'imaginer, vraiment très hostiles.
Uh-huh.
En 1821... Le 45e de ligne inquiète énormément les autorités militaires, car c'est ce que les autorités racontent, il y règne un esprit de révolte. Et il arrive fréquemment, maintenant ça va nous faire rire, que les soldats refusent de crier « Vive le roi !» À l'époque, c'était quand même relativement grave.
Bah oui.
Afin d'éloigner le régiment de Paris, bon, ils vont pas y perdre, hein, parce que de Paris... Pour l'éloigner de Paris, des complots, des étudiants, etc., et du quartier latin, le 45e de ligne est transféré à La Rochelle.
Ah, on y arrive, à La Rochelle.
Sous le soleil, c'est ce que je disais tout à l'heure, de Charente inférieure. Mmh. Et c'est ce qu'on disait à l'époque. Loire inférieure, Charente inférieure. Alors c'est Charente et Charente inférieure.
D'accord.
Maintenant, c'est Charente et Charente maritime. Les Charentais inférieurs ne sont plus les inférieurs des Charentais. Donc, ils arrivent sous le soleil de La Rochelle en janvier 1822.
Mm-hmm.
Ce changement d'air ne change rien aux idées subversives des carbonaristes. Ils ont même à leur tête, quatre sergents, des jeunes sergents, on va le voir, nommés Jean-Joseph Pommier, 25 ans, Marius-Claude Raouls, 24 ans, Charles Goubin, 20 ans, et...
Oui, pas Vincent Beson, c'est pas possible.
Mais tu m'as pas encore demandé, mais quel lien avec l'Aveyron ?
Je l'attends, je suis prêt, hein, je suis prêt de sauter dessus.
Mais je vois, heureusement, il y a quand même pas mal de matériel radio qui nous sépare. Ouais. Heureusement, j'ai la vie sauve. Jean-François Bory.
Ah,
c'est bien le nom du coin, ça.
D'ici, ouais.
26 ans.
Mm-hmm.
C'est ce dernier qui va nous intéresser. Il est sergent-major. Il est né à Villefranche d'Aveyron, en pleine révolution, aux 30 places de la Fontaine. Il est né, alors attention, le 13 prairial de l'an 3 de la République.
Ouais.
C'est-à-dire, un calendrier qu'on comprend un peu mieux.
C'est dans l'été, ça, non ?
Le 1er juin 1795.
D'accord. Juste une question, là,
oui.
Villefranche d'Aveyron.
Oui.
Excuse-moi, mais là, j'ai des lacunes dans ma géographie aveyronnaise.
Tu connais pas Villefranche d'Aveyron ?
Je connais Villefranche de Rouergue.
Ben, c'est le même.
Ah ben, je savais pas. C'est l'ancien nom.
Alors, la Révolution, il faut se remettre un peu dans le contexte, on a changé Beaucoup de noms.
Ouais.
On a changé, alors je ne sais plus comment il s'appelait, mais le roi dans le jeu de cartes, le valet, la reine, ont changé de nom. On vient de le voir, les mois ont changé, et même les jours. On commence plus au premier du mois. Vraiment, beaucoup de choses ont changé. Et à commencer, bien entendu, par le nom des villes.
D'accord.
Louisville, je sais pas, moi, des noms comme ça, égalité, liberté, voilà. Les départements sont nés pendant la Révolution. On ne parle plus de Rouergue. Le Rouergue, c'est l'ancien nom de... avant, c'était constitué... avant qu'il y ait les départements, c'était des diocèses. C'était,
oui. Ah, des diocèses,
non,
oui.
C'était des diocèses. Les provinces, ça regroupait plusieurs évêchés, plusieurs diocèses. Le diocèse du Rouergue, l'évêché du Rouergue. Et là, nous avons des départements. Donc, l'ancien mot... C'est pendant la Révolution, l'Église était vraiment apparentée comme un soutien à la royauté, à la monarchie. Donc cette notion religieuse, de diocèse, on va le supprimer et on va l'appeler Villefranche d'Aveyron.
D'accord.
Mais bon, on voit que ça change.
Ouais, ça revient.
Voilà, tout à fait.
Ok.
Alors, on sait qu'il était soldat et sous-officier dans l'armée impériale. On sait également qu'il a été blessé le 18 juin 1815.
D'accord, donc il avait 21 ans.
C'est quoi
18 juin 1815, on n'était pas loin de Waterloo. Mais
on était à Waterloo.
On était, ouais. D'accord.
C'est Waterloo. Ces quatre sous-officiers ont fondé, donc, dans leurs unités respectives, une société de carbonaristes et sont prêts, eux, pour l'insurrection. Peu prudent et trop bavard, c'est des militaires, surtout peut-être avec un petit coup dans l'aile au café le soir. Voilà. Puis bon, il racle large. Hein. En plus, d'après ce que j'ai lu, le sergent Bory des quatre est celui vraiment qui était, c'est un petit peu le
leader.
Un petit peu le leader des quatre.
C'est le plus âgé, 26 ans.
C'est ça. Mais c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Ils sont repérés et ils sont arrêtés. Ils sont incarcérés, donc on est toujours à La Rochelle, sont incarcérés dans la célèbre tour de la Lanterne.
Oui,
tu connais La Rochelle ?
Bien sûr.
C'est la tour qui est pointue, qui se détache un peu des autres, qui est très très
voit
très belle.
Sur toutes les cartes postales de La Rochelle, il y a cette tour.
Tout à fait. Sauf celle où il y a juste l'entrée du port, sais, avec la tour de la chaîne et je ne sais plus d'autres, la tour de l'horloge, je pense, quelque chose comme ça. Moi j'aime beaucoup La Rochelle.
Oui, très jolie.
Avec mon épouse, dès qu'on peut, on essaie d'y aller, c'est vraiment très très beau. Cette tour... D'ailleurs, depuis, a pris le nom de Tour des Quatre Sergents.
Ah ouais.
Donc tu vois, c'est voilà.
Resté dans les mémoires.
On va le voir après.
Mais oui, j'ai bien peur que ce soit pas pour de bonnes raisons forcément. Mais enfin, on va voir
ça
avec toi.
Ça finit un peu mal, oui, effectivement. Oui. Avant d'être donc ils sont enfermés dans cette tour, avant d'être transférés à Paris pour y être jugés. Mm-hmm. Leur procès se déroule à Paris du 21 août au 5 septembre 1822, auprès de la cour d'assises de la Seine. Il s'agit à l'époque vraiment d'un événement majeur au niveau politique.
Ah ouais, tentative de coup d'État.
Ah ben voilà. Puis bon,
peux pas faire pire.
Non. Et puis le roi veut vraiment frapper un coup pour...
calmer tout le monde.
Pour calmer, voilà, tout à fait, pour calmer tout le monde. À l'époque, il savait faire pour calmer, ça c'est sûr. Au total... Ce sont 25 personnes qui sont présentes sur le banc des accusés, donc les quatre sergents, et 21 complices, dont également des carbonari civils.
Oui.
Alors, ils sont emprisonnés, c'est une prison très connue dans l'histoire de France et dans l'histoire de Paris, à la Conciergerie.
Oui.
La Conciergerie, je rappelle, c'est là où a été emprisonnée Marie-Antoinette lors de son procès. Les accusés refusent de dénoncer leur chef malgré d'énormes pressions et également aussi un chantage de promesses de grâce. Ils savaient vraiment qu'ils risquaient, c'est le cas de le dire, qu'ils risquaient leur tête. Les accusés du complot, c'est-à-dire les quatre sergents, sont condamnés à mort.
Ah, voilà.
Par décapitation, donc la guillotine.
Ouais.
Les autres conjurés sont condamnés à des peines allant de 5 ans à 2 ans de prison. Donc les quatre sergents sont guillotinés le 21 septembre 1822 en place de grève à Paris. La place de grève, tu sais où elle est ?
Ça doit être en plein cœur de Paris. J'ai su où elle était, mais c'est pas vers la Bastille.
C'est juste devant l'Hôtel de Ville. En fait, c'est la place de l'Hôtel de Ville.
Bien sûr.
Alors je sais plus comment elle s'appelle. Place de la Libération, je crois maintenant, quelque chose comme ça.
Moi je dis place de l'Hôtel de Ville.
Place de l'Hôtel de Ville. Ouais, c'est toujours place de la mairie de toute façon. Ouais. Même si elle a un autre nom, même à Rodez, c'est place de la mairie. Ouais. En montant les marches vers la guillotine, chacun d'eux va crier Vive la liberté!
Ah, bravo.
Leurs dépouilles sont enterrées au cimetière Montparnasse. Mm-hmm. Ce procès sonnera, le roi a bien fait les choses. Ce roi va sonner la fin de la carbonarie française.
Ouais.
Mais ces suppliciés deviennent quand même des martyrs de la cause républicaine. Et leur mort deviendra un des emblèmes de la future révolution de 1830.
D'accord.
Et oui, je le rappelle encore une fois, il y a plusieurs, il y a la Grande Révolution, la Révolution française, la Révolution de 1830, et ensuite, on en a parlé il n'y a pas très très longtemps avec Monseigneur Affre, la Révolution de 1848. Cette histoire donnera lieu déjà à l'époque à de nombreuses images imprimées, à partager sous le manteau, hein, parce que bon, voilà, c'était un peu compliqué sous Louis XVIII et Charles X, à de très nombreux ouvrages et romans, et même à des chansons. Alors, une fois n'est pas coutume, deux fois non plus.
Oui.
On avait déjà eu la chanson, tu sais, Jean Petit qui
danse, Jean Petit qui danse,
voilà. Alors là, nous allons écouter une autre chanson très connue, les Frères Jacques.
Oh là là, toute mon enfance. Ça remonte à un certain temps.
T'es si vieux que ça, toi?
Ouais, ouais.
50, 60, bon allez, 70, ça devait, voilà.
70, c'était toujours, ouais. C'était le Frère Jacques, c'était ceux qui étaient en bas.
Qui étaient en bas.
Enfin, qui avaient des petits collants et...
Oui, en bas. En bas, oui, j'avais compris, en bas, en haut, en bas. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait, avec les chapeaux melons.
Je les prenais pour des dingues.
C'est ça. Alors, cette chanson s'intitule, comme par hasard, Les Quatre Sergents. Nous allons l'écouter et nous nous retrouvons juste après.
Nous étions quatre sergents collés à la Rochelle. Nous étions quatre galants sergents à trois ficelles.
Sauf lui qui est pas gradé, sauf moi qui est caporal, sauf lui qui est réformé.
Et moi trompette à cheval, c'était mon épaulette, fillette crénon, c'était mon épaulette et le galon. Nous étions quatre lurons du type téméraire,
lourde démangeaison du côté des rapières. Sauf lui qui a peur des coups, sauf moi qui est si prudent, sauf celui-là qui est si doux.
Et moi que jamais le temps, faut garder ta tête, fillette de canon, faut garder ta tête pour la nation. Nous étions quatre rois, comme au grand jeu de cartes, nous étions quatre fois plus savants que Descartes.
Sauf lui qui est bachelier, sauf moi qui est innocent,
sauf lui qui dit que le nid sert à faire des enfants. On a la coquette, fillette chez les dragons. Nous étions quatre amants d'une belle si belle
que nous étions bien sans à tourner autour d'elle. Sauf lui qui n'osait pas, sauf moi qui n'aurais pas pu,
sauf lui qui ne tenait pas plus que moi à être cornu. C'était bon la dentelle, fillette de canon, c'était bon la dentelle de ton jupon.
Nous étions très émus un soir que la demoiselle nous fixa rendez-vous à quatre pas de chez elle.
Sauf lui qui s'est causé, sauf moi qui avais les fleurs, elle nous a ri au nez, nous on a ri en cœur. C'était beau la fossette, fillette pardon, c'était beau la fossette de ton manteau. Et nous avons bien ri, plus encore quand la gosse est venue nous présenter son futur pour les noces.
Sauf moi qui l'aimais bien, sauf moi qui l'aimais bien, sauf moi qui l'aimais bien, sauf moi qui l'aime encore.
On change pas d'amourette, fillette crénon, comme on change de litette ou de garnison.
Pom, 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 pom.
Très bien.
Les frères Jacques, le titre, les quatre sergents.
C'est
Vincent,
ça.
C'est ça.
Affirmatif.
Pour illustrer d'autres sujets du jour, le sergent Bory, les quatre sergents de La Rochelle.
La Rochelle.
Vincent.
Alors, nous sommes, si je me trompe pas, encore en 2022.
Toujours, oui.
Toujours.
Quelques
jours. Donc, voilà, pour quelques jours encore. Le 21 septembre dernier, nous avons fêté le 200e anniversaire. Enfin, fêté. oui. Célébré. Tranquillement. Nous avons célébré à Villefranche-Rouergue le 200e anniversaire de la mort du sergent Bory, mm-hmm. et aussi, bon, bien sûr, des trois autres sergents de La Rochelle. Si le sujet vous a plu, si vous êtes de Villefranche-Rouergue, ouais. vous devez le savoir, c'est très connu. Mm-hmm. Mais si vous voulez vous promener à Villefranche-Rouergue, je vous le rappelle, c'est une très très belle bastide. On en a déjà parlé dans plusieurs chroniques. Vous avez la maison natale du sergent Bory, ouais. et également vous avez son buste en bronze.
Ah d'accord.
Alors on l'a vu, la maison c'est au 30 de la place de la Fontaine. Cette statue a été inaugurée en 1904 et placée donc place de la Fontaine, mais depuis elle a été déplacée cette statue, et en fait maintenant vous pouvez la retrouver à l'angle de la place Bernard Lèze et de la rue. D'après toi,
Serge Bory.
Du sergent Bory.
Ah, du sergent Bory.
C'est pas Serge Bory, c'est sergent Bory.
Sergent Bory, ouais.
Voilà. Pardon, ouais.
Très bien. Bon, on arrive à la fin de cette émission Mémoire Véronèse sur CFM Véronèse.
Oui, tout a une fin.
La 27e, la dernière de l'année, Vincent. Hein.
Ah, oui. Ah, mais oui, déjà.
Bon, mais on se retrouve en 2023.
Promis.
28e édition. Promis. Tu sais déjà un petit peu le programme ou non? On va se donner les fêtes.
Toujours, ouais, toujours, ouais, toujours. Je prépare bien les choses.
C'est bien, de quoi tu parles.
Il faut. Alors, eh bien, en fait, il nous manque un général de l'Empire ruthénois.
Ah.
Donc j'ai promis que chaque étoile ouais. deviendrait une constellation, tellement ouais. qu'on aurait d'étoiles. Nous allons parler dans 15 jours du général Jean-Joseph Tarrère, de la rue Tarrère.
Ok, super, parfait. Pour ce prochain rendez-vous sur CFM, j'en profite pour aussi rappeler à ceux qui ne savent pas encore que Vincent Besombe, président du comité Rodez du souvenir français, dont toi Vincent, hein, tout simplement.
C'est moi.
Je plaide coupable. Est aussi auteur, et tu viens de faire paraître ton dernier né, il y a quelques jours à peine.
Et oui, il y a un nouveau membre dans la famille.
Voilà, et puis il est beau le petit dernier.
Ah, c'est gentil.
Entre les mains, non, un très beau livre qui s'appelle Jean Bétou, un artiste au maquis. C'est aux éditions Toute Latitude, maison d'édition Aveyron. Un livre
de Villefranche, dont on vient de parler.
Exactement. Un livre illustré de très nombreux dessins, croquis, aquarelles de Jean Bétou, artiste aveyronnais. Des dessins croqués sur le vif dans le maquis aveyronnais à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, un très beau livre pour voir ces œuvres de Jean Bétou, qui est un vrai artiste, on comprend en feuilletant cet ouvrage. Et puis ça nous permet de nous replonger dans le quotidien de l'époque.
À la fois un livre d'art et un livre d'histoire.
Ouais, un très beau livre. 24 euros. 80 pages, plus de 120 documents et toute ta connaissance, ta culture autour de ce sujet particulier pour nous en planter aussi le décor à travers ce livre. Jean Bétou, un artiste au maquis. Merci beaucoup Vincent.
Merci à toi, merci à vous. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.